Beyrouth, ville mémoire, l'identité libanaise en ruine. Depuis le 4 août et l'explosion qui a fait près de 200 morts et jeté à la rue plus de 300 000 personnes, ravageant le port de Beyrouth et les quartiers de l'est de la ville, les Libanais doivent gérer l'urgence. Après des mois de mobilisation contre l'incurie de l'État, la corruption et les divisions qui minent le pays, après un printemps confiné, le pire est à nouveau arrivé. Ils en reviennent avec nous deux romanciers, Diane Mazloum, auteur en cette rentrée de Une piscine dans le désert, chez Jean-Claude Lattès, roman sur une amitié qui se noue dans les montagnes libanaises. Et Sabil Goussoub, écrivain et photographe, ancien directeur du Festival du film libanais, auteur aux éditions de l'Antilope de Beyrouth, entre parenthèses, un questionnement sur l'identité à la faveur de l'interrogatoire d'un jeune photographe franco-libanais à l'aéroport de Tel Aviv. Bonjour Diane Mazloum.
Bonjour Olivia.
Bonjour à vous Sabil Goussoub.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être avec nous. Il y a les images impressionnantes de ce champignon qui se forme, de cette fumée blanche puis noire, de cette lumière rouge et puis le son. Ce bruit, vous l'avez entendu, Diane Mazloum ?
Absolument. Donc, j'étais dans mon appartement, enfin dans l'appartement de mes parents, en face du port, à 2 kilomètres du port. Je venais de rentrer à la maison et tout d'un coup, j'ai senti l'immeuble se tordre et est venu ce bruit, en fait, au début très délicat et puis comme un souffle qui a vraiment tout aspiré pour devenir de plus en plus bruyant. Et j'ai été propulsée au sol dans un tourbillon de verre avec des portes arrachées, les vitres brisées, les baies vitrées. Je me suis relevée de ça, je ne savais même pas comment est-ce que c'était possible de se relever de ça, de voir l'état dans lequel étaient les alentours, l'appartement, et surtout de sentir la ville, parce qu'il n'y avait plus de vitres nulle part, l'appartement était complètement ouvert de part et d'autre, et de sentir un silence horrifiant, fait de bruit, d'alarme de voiture, de gens qui crient, même si je suis au 9e étage. Mais c'était un silence mortifère, en fait.
Quand on a des familles, des parents qui ont fui la guerre civile, et que tout à coup, on est à Beyrouth et on entend ça, on pense à quoi immédiatement ?
Alors, par exemple, je n'ai pas du tout pensé... Ah, bon voilà. Alors, j'allais vous dire que je n'ai pas du tout pensé à un tremblement de terre. Mais pour revenir à mes parents, je pense que c'est hallucinant d'imaginer que mes parents jeunes ont quitté le Liban, ont dû fuir le Liban pour s'installer à Paris à cause de la guerre, pour revenir ensuite, 10 ans après que la guerre soit terminée, pour de nouveau vivre un pays en faillite et ensuite ce coup de grâce. Je n'en reviens pas.
Pourquoi vous dites que j'ai pas pensé du tout au début à un tremblement de terre ?
Non, je n'ai pas pensé à un tremblement de terre.
Vous avez pensé à quoi ?
Non, parce qu'on entend, d'abord il y a eu une première déflagration beaucoup moins puissante que la seconde, mais cette première déflagration est un signe qui instinctivement nous a permis un peu de, quelque part, de nous protéger instinctivement. Ensuite, on a entendu, moi aussi j'ai entendu un bruit de, comme le mur du son qui a été franchi. Et enfin, il y a ce souffle, je l'imagine pas associé à un tremblement de terre.
Sabil Goussoub, Beyrouth, entre parenthèses, votre roman, c'est toute cette tentative d'essayer de mettre ce pays, cet attachement que vous avez à la ville de Beyrouth et au Liban, qui est le pays de vos origines, alors que vous vivez aujourd'hui en France. C'est une tentative de mettre effectivement la ville, cette culture, cette identité, entre parenthèses, le temps de vous échapper, en tout cas votre narrateur, mais on imagine que c'est assez autobiographique, voir une amie à Tel Aviv, en Israël. Or, Israël, c'est le pays ennemi. C'est vraiment l'endroit où, logiquement, on ne va pas quand on est un Libanais et qu'on s'appelle Sabil Goussoub. Vous étiez, vous, à Paris au moment de l'explosion qui a eu lieu au port de Beyrouth ou au Liban ?
Non, moi, j'étais en France Et j'étais avec ma compagne qui est aussi libanaise, qui est née à Beyrouth et qui a grandi là-bas. Et on a reçu une notification. Et directement, il y a un sentiment de panique, de colère. Elle a eu peur directement pour son père, qui a une clinique en plein milieu des quartiers qui ont été dévastés. Et donc là, on a essayé de prendre contact avec des gens. Et en fait, en allant là à Beyrouth, j'ai découvert que nous, en étant loin, on a vu les images de l'explosion bien avant que les gens qui y étaient, qui comprenaient pas du tout ce qui se passait, qui essayaient en général d'aller à un hôpital, de sauver des gens autour d'eux. Et en fait, ils comprenaient pas si c'était le début d'une nouvelle guerre et que d'autres missiles allaient tomber. Beaucoup de gens ont dit, ils ont eu l'impression que c'était un attentat qui était juste en bas de chez eux. Donc nous, on a vécu de loin en essayant de contacter forcément directement tous nos proches pour savoir s'ils étaient vivants, s'ils allaient bien. Certains répondaient pas, certains... D'autres allaient bien, se dirigeaient vers des hôpitaux, mais on comprenait pas, comme tout le monde, en fait, si c'était qu'est-ce que c'était cette explosion. Parce que quand on la voit, on a l'impression que c'est presque une bombe atomique, on comprend pas.
Une crise économique et monétaire, puis politique, puis sanitaire, les mesures prises pour lutter contre l'épidémie de coronavirus et ayant pas franchement arrangé les choses, au Liban encore aussi. Avant même la catastrophe du port de Beyrouth, le pays était sur les genoux. Est-ce que, un peu comme l'a évoqué Diane Mazloum avec cette idée du coup de grâce, vous avez eu, vous, le sentiment, en apprenant cette nouvelle, en ayant les alertes sur votre téléphone portable, Sabil Goussoub, que... Là, il y avait quelque chose de l'ordre du mauvais sort, enfin d'un sort qui s'acharne.
Wajdi Marawa a dit une très jolie phrase, il a dit « Le cœur des Libanais a explosé à ce moment-là ». Et je trouve que c'est une très belle image, je pense que c'est des années et des années et des années de guerre, de refoulement, de pays qui ne va pas mieux, d'attentats qui ne s'arrêtent pas, de guerre qui continue. Je pense que c'est le coup de grâce, oui, comme vous avez dit, c'est vraiment le trop-plein. Et au-delà même de cette explosion, je crois que la crise économique que vit aujourd'hui le Liban est monstrueuse. M'ont dit au Liban, tu sais, l'explosion, s'il n'y avait pas la crise économique, on s'en serait sorti, on connaît les explosions. Mais la crise économique, l'argent qui a été volé aux gens, le fait de ne pas pouvoir tirer son argent, d'avoir perdu son argent, je crois rarement un pays a connu autant de crises. La crise économique, la crise sanitaire que connaît le monde entier, mais aussi le Liban. Il faut dire qu'une semaine après ou 10 jours après l'explosion, il y a eu un reconfinement. Là, quand j'y étais, on vivait le confinement. Sauf les quartiers dévastés, mais il y avait un couvre-feu de 18h à 6h. Je crois que vraiment rarement un pays a connu autant de crises en si peu de temps. Et on ne voit pas comment on va s'en sortir. Les gens, je ne vois pas comment ils vont s'en sortir. Ceux qui peuvent partir sont déjà partis. Ceux qui ont d'autres passeports sont partis. Mais ceux qui doivent demander des visas, qui n'ont que le passeport libanais pour vivre, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Le cœur des Libanais a explosé, dites-vous, Sabil Goussoub, dans les mots de Wajdi Mouawad, le directeur du Théâtre de la Colline à Paris. Qu'est-ce que ça représente, Beyrouth, pour les Libanais? Peut-être si vous arriviez à nous expliquer ça l'un et l'autre, parce qu'on a le sentiment quand même qu'avec la destruction d'une partie de la ville, cette ville, elle porte à la fois le souvenir de l'âge d'or, qui est le titre de l'un de vos romans, Diane Mazloum, et les cicatrices aussi de la guerre civile. C'est presque plus qu'une ville, c'est une partie de la mémoire du pays, pour vous, qui a été effacée, là, avec cette explosion.
Bien sûr, une grande partie de la mémoire est effacée parce que presque tout le patrimoine qui était concentré à l'est a été soufflé. Je parle des palais, des anciens immeubles, les vitraux, les œuvres d'art qui étaient dans ces anciens palais. Tout ça a été soufflé. Après, bien sûr, on a commencé à avoir un symbole. L'ouest de la ville a été protégé par la moitié des silos qui sont restés debout. Et c'est vrai que c'est l'Est qui a été ravagé, l'Est qui, dans le temps et jusqu'à aujourd'hui ici, disons, est majoritairement habité par les chrétiens. Donc, quelque part, il y a malgré nous, parce qu'on ne veut pas rentrer, on ne veut pas exacerber ce communautarisme, mais il y a malgré nous cette image, déjà avant cette double explosion, on avait l'impression que c'était la fin d'un monde qui était en train d'être signé, la fin d'une civilisation. On avait l'impression, avec cette énorme crise financière et sociale et politique, pratiquement existentielle, que le Liban était en train de virer au départ de Beyrouth. Moi, j'avais peur de retrouver Beyrouth après la pandémie. Quand je suis arrivée le 1er août, j'avais peur de me retrouver dans une ville en voie de devenir comme ça un peu sombre et monochrome, avec bientôt une religion principale, une seule langue, une seule pseudo-culture. C'était ma grande frayeur. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. La force de Beyrouth, c'est cette diversité, c'est sa richesse culturelle, c'est ce multi-tout, multi-communautaire, multi-confessionnel, multi-culturel, c'est tout ça. Renoncer à ça, non, jamais. Et Beyrouth incarne ça.
Et pour vous, Sabil Goussoub ?
Beyrouth, il y a ces quartiers. Enfin, pour moi, Beyrouth, c'est différent, justement, différents quartiers. Je trouve qu'il y a différents Beyrouth. Et c'est vrai que cette partie-là de Beyrouth qui a été détruite, c'est d'une façon la partie chrétienne historique, mais également c'est aussi un lieu où les gens de ma génération aussi beaucoup sont mélangés sans se poser la question de la religion. Et je crois que c'est comme s'ils avaient tenté de détruire ce Beyrouth qui finalement s'est soulevé le 17 octobre. Le Liban qui s'est soulevé le 17 octobre, c'est un peu ce Beyrouth-là, justement, qui est au-delà des confessions. Et c'est une nouvelle génération, et je crois que cette explosion va en faire partir beaucoup, mais s'ils vont partir, c'est pour mieux revenir. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas que les gens qui tiennent ce pays pensent qu'ils vont se débarrasser de nous. Je pense que même si on part, on reviendra, et que ce Beyrouth vivra toujours, et s'il ne vit pas là-bas, il vivra ailleurs. Et cette idée du Liban, je pense qu'elle existe et qu'elle est plus forte que toute explosion, que toute crise, que tout parti politique.
Mais c'est un accident. Est-ce qu'il faut chercher pour autant aujourd'hui des responsables ou des coupables dans cette tragédie ?
Alors, ce que je disais à Diane juste avant...
Parce que vous dites « ils ». Ils ont cherché à nous faire fuir aussi.
Les gens qui dirigent ce pays, la caste mafieuse qui dirige ce pays, ont cherché, pas que à travers cette explosion, par rapport à tout ce qu'ils font depuis 30 ans dans ce pays, ils ont cherché à faire fuir les gens. Et là, finalement, quand ils ne s'excusent pas, parce que finalement, ce nitrate d'ammonium, peu importe que les Israéliens tirent ou peu importe ce qui se passe, il a été posté là. Et il y a des responsables à ça. Et il y a des gens du port qu'on sait corrompus, qui sont corrompus par les politiciens qui tiennent le pays depuis des années. Est-ce qu'on va savoir qui a fait ça un jour ? Moi, je ne le pense pas. Mais ce serait bien qu'on puisse au moins juger les gens qui ont rangé ce nitrate-là pendant 6 ans à côté de la ville.
S'unir dans le malheur, c'est effectivement l'appel qu'on entend de la part de certains responsables. Est-ce qu'il faudra à nouveau faire fi des clivages, de ces communautarismes que vous évoquiez, hein, Diane Mazloum, à l'instant, pour se relever ? Est-ce qu'elle est là, la clé ?
Oui, bien sûr.
La solidarité.
Bien sûr, on a vu un énorme élan solidaire après la double explosion. C'est même impressionnant. Les Libanais, enfin les gens touchés, ils ont fait le travail de l'État. On a tout fait. On a commencé à nettoyer, à aider, à mettre en place des chaînes d'aide alimentaire, pharmaceutique, médicale. Tout ça sans qu'un seul dirigeant ne lève le petit doigt. Et tout ça, sachant que l'argent reste bloqué à la banque. C'est-à-dire que même, ils n'ont même pas eu la décence de débloquer de l'argent pour qu'on puisse nous récupérer notre argent pour pouvoir nous payer les réparations. Même pas ça. Mais heureusement, voilà, c'est la force du Libanais, c'est qu'on est habitué à ce genre de choses et on a mis en place tout un système, un nouveau système. On a presque l'impression qu'une petite ville s'est créée dans la ville, un village de solidarité. Mais après, ça, c'est magnifique. Mais moi, je suis arrivée à un stade de me dire que je n'ai plus envie de me barricader derrière cette résilience, cette fameuse résilience libanaise, ce phénix qui va renaître de ses cendres. Parce qu'aujourd'hui, toutes les victimes n'ont pas ressuscité de leurs cendres. Elles sont mortes, beaucoup de victimes. Il y a encore beaucoup de blessés qui risquent de mourir. Et ça suffit, le courage, la résilience, ça suffit. Là, vraiment, on est à bout et c'est un peuple qui est vraiment menacé et exsangu et très, très, très fatigué et découragé.
Qu'est-ce qui vous attache, vous, Diane Mazloum, dans cette terre, dans ce pays qui est, une fois encore, le cadre de ce nouveau roman, Une piscine dans le désert. Là, c'est pas Beyrouth, c'est plutôt les montagnes.
Oui.
Mais qu'est-ce qui continue à vous attacher, à vous attirer toujours là-bas, au Liban ?
Je pense que c'est viscéral parce que, comme le répète chaque jour mon mari qui ne comprend pas mon attachement à cette terre puisque je ne suis pas née au Liban et je n'ai pas grandi au Liban, on m'a toujours emmenée au Liban de petite, même pendant la guerre. Je pense que mon inconscient a été profondément marqué par cette terre très sensuelle où vraiment il se dégage une énergie très très forte, dont on ne peut pas rester indifférent. Et le lieu que j'évoque dans mon livre, Une piscine dans le désert, qui se situe à la frontière entre la Syrie, le Liban et l'Israël, quelque part regroupe un peu toutes ces contradictions et tous les contrastes dont regorge le Liban et qui à moi me fascinent parce que ici, au Liban, c'est une terre où tout est porté à l'extrême. Donc, ça devient insaisissable. Et comme je n'arrive pas à le saisir, je reste happée par ça et je continue à vouloir l'exprimer, le décrire et le retranscrire.
L'un des protagonistes du roman, Léo, considère aussi que ce village où se déroule l'action d'une piscine dans le désert est un lieu aux confins de trois continents, de trois pays, un lieu susceptible de contenir le monde. Dans L'Orient le jour, une écrivaine libanaise, Dominique Edé, presse les forces vives de la nation à s'unir pour se débarrasser de ce pouvoir moribond, écrit-elle, qui ne doit plus son dernier souffle qu'à sa perversion. Dans Le Monde, elle raconte qu'au Liban, tout s'y trouve à l'excès, les populations, la misère, les affects, le courage, la peur, les retombées des conflits régionaux, les mémoires contradictoires, toutes les croyances, toutes les formes de représentation, l'héroïsme et l'horreur vivent ici, à leur comble, côte à côte, sur 10 452 km². En octobre dernier, à la Grande Table, au début des mobilisations contre la nouvelle taxe envisagée, puis contre la casse politique tout entière, Dominique Edé, toujours elle, nous disait...
Le Liban, j'avais l'habitude de dire que c'était un endroit où il y avait tout ce qu'il fallait pour faire un monde, mais pas assez pour faire un pays. Et je dirais que depuis le 17 octobre, je découvre qu'il y a, oui, de quoi faire un pays. Et donc, ce serait fascinant si cet endroit où il y a de quoi faire un pays devenait aussi un exemple pour le monde. Sur 10 400 km², vous avez tous les enjeux au niveau de la pollution, au niveau des défis économiques et du vivre ensemble. Tous les problèmes qui se posent aujourd'hui à l'échelle de la planète se posent sur cette tête d'épingle, sur ce mouchoir de poche qu'est le Liban.
Vous pensez, Diane Masloum, vous aussi, Sabil Goussoub, comme Dominique Edé, que le monde entier devrait se sentir concerné aujourd'hui par ce que vivent actuellement les Libanais ? Parce que c'est une part de nous aussi qui est là-bas.
Je pense que oui. Et d'ailleurs aussi un Français, mais je ne me souviens plus qui, a dit au moment de ces événements du 17 octobre, a dit « Prenez les problèmes de la France, multipliez-les par 1000 et vous aurez le Liban ». Donc effectivement, il suffit d'observer ce qui se passe au Liban et d'imaginer que ça pourrait se passer parfaitement ailleurs. Donc oui, et moi je pense qu'il faut avoir le regard tourné vers le Liban et surtout il faut le sauver parce que même si c'est un peu cliché ce que je veux dire, c'était quand même une promesse. C'était vraiment une promesse d'harmonie, un message d'entente multicommunautaire. C'était cette singularité libanaise, cette exception libanaise avait quelque chose vraiment d'unique. Et c'est ça aujourd'hui ce qu'on aimerait vraiment sauver.
Une lumière au Moyen-Orient, hein, disiez-vous.
Toujours, ouais. Cette lumière.
Et cette idée que cette promesse a été trop souvent trahie aujourd'hui, peut-être qu'il y en a une nouvelle à inventer. Sabil Goussoub, pour vous, ce Liban mérite qu'on continue à le regarder et à le comprendre pour ce qu'il est. C'est vraiment tout l'exercice sous la forme de la fiction et du roman que vous menez aussi, vous, dans Beyrouth, entre parenthèses, une tentative de fixer ou tout au moins de saisir ce qu'est l'identité libanaise. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous racontez que vous avez hésité à publier ce livre une fois écrit. La culpabilité vous a quand même bien tenaillé au moment où la crise économique et la contestation a commencé à arriver dans les rues de Beyrouth. Aujourd'hui, vous vous sentez plus libanais que jamais ou est-ce que ce dilemme que vous mettez en scène dans Beyrouth, entre parenthèses, reste entier ?
Le dilemme finalement c'est quelqu'un qui se sent très libanais, hein. À la fin du livre finalement je me suis jamais senti aussi libanais qu'après ce voyage. Sur l'histoire du livre, oui, j'avais justement peur, j'étais allé le 19 octobre, deux jours après le début du soulèvement au Liban, et j'étais revenu et j'avais dit à mes éditeurs, le Liban est dans l'inconnu maintenant, et je ne me vois pas publier ce livre parce que je sais pas ce qui peut arriver à ma famille là-bas, c'est un sujet très sensible, Israël. Et en fait, j'ai réalisé peu de temps après, 3-4 mois après, une fois que, on s'est engueulé, etc., et que j'ai dit, allez, on se lance sur le livre, sur une nouvelle version, que finalement ce livre fait partie du mouvement du 17 octobre. C'est-à-dire que c'est une parole qui s'est libérée. Je crois que s'il y a une chose qui est apparue avec le mouvement du 17 octobre au Liban, c'est que je crois que les gens maintenant osent dire les choses. Les gens de ma génération osent dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ils disent qu'ils veulent dépasser le communautarisme. On pense autrement. Oui, pourquoi pas un conflit avec Israël, mais pas avec les armes. On a le droit de le dire maintenant. On a le droit de dire les chiites, on a le droit de dire qu'ils sont contre le Hezbollah, ce qui se faisait pas avant. On a le droit de dire qu'on veut dépasser nos communautés. Et finalement, ce livre aussi, c'est aller au-delà de son identité libanaise, mais aussi au-delà de sa communauté maronite. Et je crois que ce qui doit se passer au Liban, moi, ma promesse du Liban, elle est à venir, elle est pas avant. C'est-à-dire que le Liban que j'ai connu pour l'instant n'est pas vraiment une promesse. C'est-à-dire, c'est quand même 15 ans de guerre. Des salles d'attentats, une ville divisée, un pays divisé, avec quelques moments, des petits lieux de où ça brille, où ça se mélange, mais disons que le Liban dans sa globalité encore n'est pas encore une promesse. Et je pense que la nouvelle génération et même les gens plus jeunes que moi peuvent apporter un espoir et un bel avenir au Liban. Et je pense que c'est eux qu'on doit écouter aujourd'hui.
C'est aussi l'histoire quand même, ce narrateur, d'un jeune homme qui essaye de se délester du poids de l'histoire. L'histoire d'un pays, mais aussi l'histoire de sa famille, dont il ne sait d'ailleurs pas toujours grand-chose. Vous l'écrivez, j'ai essayé d'en savoir plus. Des dizaines de fois, j'ai demandé à mon oncle. Certains de mes amis libanais vivaient ce même silence avec leur père, leur oncle ou leur mère. Nous sommes désemparés devant ces secrets qu'ils gardent si bien enfouis en eux. Et là, à cet aéroport de Tel Aviv, pendant cet interrogatoire, il va devoir se justifier, expliquer qui il est, d'où il vient, qui sont ses amis, ses parents, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la guerre, et puis après, de quelle religion, de quelle confession ils sont. Et vous écrivez encore, j'ai beau chercher, je ne trouve rien, mais j'imagine, et l'imagination c'est bien pire, elle n'a pas de fin, de point final. A-t-il tiré, en parlant d'un oncle, sur qui, sur quoi? J'en ai aucune idée, strictement aucune idée, j'ai peur d'être jugée à sa place pour des actes dont j'ignore même l'existence. Ce passé aussi, cette histoire, cette identité libanaise et tout ce qui la forge encore aujourd'hui, vous avez envie toujours de la mettre de côté et d'inventer quelque chose de nouveau, mais est-ce que c'est seulement possible ?
Pour inventer quelque chose de nouveau, il va falloir qu'on revienne sur cette histoire. Et je pense que c'est une des demandes, justement, l'histoire de la guerre du Liban de 75 à 90 n'a pas encore été écrite et elle se doit d'être écrite. On a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des gens, des adolescents de 18-19 ans qui disent « je ne connais strictement rien de la guerre, sauf ce que ma mère a voulu me raconter ». Ils ne savent pas quand ça a commencé, ils ne savent pas ce qui s'est passé, ils ne savent pas qui a fait la guerre contre qui. Et cette histoire, elle doit être écrite. Et elle doit être résolue d'une certaine manière. Les gens qui ont, les seigneurs de guerre qui ont fait cette guerre, il faudrait peut-être enfin qu'ils soient jugés pour les crimes qu'ils ont faits. Il serait enfin temps de les voir derrière des barreaux, je pense.
Fausta et Léo, vos deux héros, Diane Mazloum, dans ce roman Une piscine dans le désert, vivent aussi avec l'histoire de leur famille, bien implantée dans cette région, même si Léo, lui, est de retour et va apprendre à regarder sa propre histoire. Lui qui se sent si étranger à ce qui est vécu là-bas. Vous pensez aussi qu'il faut, à un moment, ouvrir la porte à la parole, sortir de ces non-dits pour pouvoir à nouveau se projeter, inventer un avenir au Liban et à votre génération?
Je pense qu'effectivement, on n'a pas vraiment d'histoire. Et l'histoire est très importante pour pouvoir s'appuyer dessus et aller de l'avant. On est vraiment sur des non-dits et du flou et un manque de repères. Et effectivement, si aujourd'hui on veut créer un nouveau Liban, et c'est ça ce qui devrait se passer, même s'il y en a beaucoup qui aimeraient faire revivre l'âge d'or du Liban, entre guillemets, c'est vraiment quelque chose de nouveau, il faudrait vraiment tout revisiter, faire table rase et vraiment établir des bases très solides. Ne pas oublier que le Liban est quand même un pays très jeune qui a été indépendant, qui a gagné son indépendance, gagné assez facilement son indépendance en 43. Et tout de suite, la guerre a commencé en 75. Et effectivement, on n'a même pas eu le temps de nous construire en tant que nation, en tant que voilà. Et là, le 17 octobre, ce soulèvement était vraiment un début parce que c'est. Alors moi, j'étais là-bas. Je me suis couchée ce soir-là, normalement, et le 17 octobre, je me suis réveillée. J'étais dans une autre ville, dans un autre monde, où tout d'un coup, tout le monde était dans la rue avec le drapeau libanais, l'hymne national, et ça allait au-delà. Pour une fois, vraiment, vraiment, ça allait au-delà de tout ce sectarisme, ces communautés, les milieux sociaux, la religion. On est En tant que Libanais, on est tombé amoureux de nous-mêmes. Bon, évidemment, c'était comme dans chaque début d'histoire, c'était la magie du début, c'était peut-être un mirage, mais c'est déjà un bon début. Et c'est sur ça qu'on doit aujourd'hui se forcer à construire et sur quelque chose de vraiment solide et concret.
Ce voyage que votre narrateur Sabil Goussoub réalise en Israël pour rendre visite à une amie, il faut le dire que, donc on l'évoquait, pour un Libanais, c'est quand même la transgression ultime, se rendre en Israël. Mais pour les Israéliens aussi, voir arriver un franco-libanais, ça relève de l'étonnement. Même si cette haine qu'on entretient, qu'on raconte des Libanais pour Israël n'est pas directement la sienne, celle de votre narrateur, cette haine, il en a hérité, se pose à travers votre roman toujours cette question, c'est quoi au fond être Libanais ? Qu'est-ce qu'on apprend en retournant sur ses origines ? Quelle est cette part de nous-mêmes dont on a hérité et celle qu'on s'est construite au fil des années ? France Culture, il est 13h21 avec nos deux invités, deux romanciers, Diane Masloum, auteur en cette rentrée de Une piscine dans le désert chez Jean-Claude Lattès, et Sabil Goussoub, écrivain et photographe, ancien directeur du Festival du film libanais, auteur aujourd'hui aux éditions de l'Antilope de Beyrouth, entre parenthèses.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
15 milliards de dollars, c'est le coût estimé pour l'instant des dégâts après l'explosion qui a ravagé le port et les quartiers avoisinants de Beyrouth. Début août, qui peut payer aujourd'hui ? Personne. Par quoi passera la reconstruction alors ? On l'évoque, on se pose cette question avec nos invités Diane Masloum et Sabil Goussoub depuis une petite demi-heure. Beyrouth, je me souviens. On va marcher, si vous le voulez bien, quelques instants dans les pas de la dessinatrice Zeina Abirached. C'était en 2016, écoutez.
Alors on est sur une terrasse d'un hôtel, c'est un bâtiment que j'aime beaucoup en fait, c'est un immeuble des années 20 si je ne me trompe pas, donc il y a beaucoup de détails art déco dans la ferronnerie, il y a beaucoup de plans, donc il y a cette atmosphère comme ça de ce Beyrouth des années 20 que je n'ai pas connu évidemment mais dont l'esthétique me plaît beaucoup. Il y a quelque chose de l'art de vivre libanais qu'on retrouve dans ces pierres et l'atmosphère de ce lieu. C'est un moment très agréable, on entend les oiseaux, le soleil va bientôt se coucher, on sent là les fleurs. Beyrouth pour moi c'est des moments comme ça, des moments extraits du quotidien et de la tension et d'une certaine forme de violence qu'on peut trouver ici, d'une certaine idée du chaos aussi dans l'urbanisme même de cette ville. Définir Beyrouth peut-être ça serait justement ces moments magiques dans une journée qui font qu'on est à Beyrouth et nulle part ailleurs. C'est difficile à décrire avec des mots. Il faudrait que je fasse un dessin.
La dessinatrice Zeina Abirached, il y a 4 ans, postée sur les hauteurs de l'hôtel Albergo avec une vue visiblement imprenable sur la ville. Vous connaissez cet endroit, vous voyez ce qu'on y voit, aussi ce qu'elle a pu y voir. Cette idée aussi d'un Beyrouth, c'est ce qu'elle interroge, qui pourra, et ça on ne sait pas, un jour retrouver son insouciance, Diane Masloum, ça reste la question aussi aujourd'hui.
Oui, je pense qu'il y aura toujours, c'est aussi un peu notre force, un degré d'insouciance chez les Libanais. Et je pense que même s'il n'y en avait pas, on peut effectivement construire quelque chose, reconstruire là où l'insouciance ne règne plus dans un premier temps. Et un peu, si je veux faire un lien avec justement mon livre, mon héroïne qui construit une piscine sur un terrain qui ne lui appartient pas, donc illégalement, qui donc commet un acte d'inconscience, mais qui prouve justement qu'on peut construire quelque chose quand on n'a plus rien, quand on a tout perdu.
Vous êtes aussi, Sabil Goussoub, un amoureux de la poésie libanaise. Il y a des mots qui, dans ces moments-là, comptent pour vous, qui sont importants, des mots des poètes libanais, même s'ils vivent peut-être dans une mélancolie, une nostalgie plus forte que votre génération, et des nouveaux mots qu'il vous semble urgent de réinventer aujourd'hui.
C'est peut-être moins dans la poésie, pour moi c'est plus dans le bouquin, j'en parle, que c'est plutôt mon père qui est très très proche de la poésie arabe et qui est grand connaisseur. Moi c'est plutôt chez les artistes même aujourd'hui vivants, libanais, qu'ils soient de Beyrouth ou qu'ils soient d'ailleurs. Je pense qu'il y a une force chez eux, un Beyrouth qui existe dans leurs œuvres en général, qui est ce qu'on aimerait voir du Liban aujourd'hui. Maintenant, c'est comment réussir à mettre en place ce Beyrouth, ces rêves, ces fantasmes, parce que finalement on le rêve, mais la réalité est beaucoup plus dure. Et comme Diane le disait tout à l'heure, je pense qu'il y a plus de courage, il y a plus beaucoup de résilience, il y a vraiment un grand désespoir à Beyrouth. Moi, ce que j'ai vu là de Beyrouth, je l'avais jamais vu avant. Même chez les gens de ma génération, ils en peuvent plus. Ils sont au bout du rouleau. Ils savent plus comment faire, par où passer. Ils veulent fuir. On leur a vraiment tout pris là, tout de nos rêves, même des rêves de nos parents, d'un jour y retourner quand ils sont partis. Là, il y a un moment où on a besoin d'aide, mais moi, j'ai malheureusement l'impression que personne ne veut vraiment aider le Liban et que les Libanais doivent s'aider eux-mêmes justement maintenant. Et que ces aides étrangères, c'est peut-être aussi finalement ces influences étrangères, ce qui a un peu détruit le Liban. Les gens qui ont accepté ces aides-là, il faut les accepter, mais comment maintenant? Sous quelles conditions? Et il faut discuter entre nous. Maintenant, il faut qu'on fasse face vraiment tous ensemble.
Voilà un monde en noir et blanc, hein, comme vous l'évoquez aussi en titre de l'un de vos chapitres, Beyrouth, entre parenthèses, Sabil Goussoub, un ventre stérile. C'est aussi un peu à ça que ressemble le pays aujourd'hui. Diane Masloum, comme celui de Fausta, votre héroïne, une piscine vide qu'il va falloir remplir. Hein, remplir ce vide laissé, là encore, par ce nouveau drame et par ces tragédies successives.
Oui, mais comme Sabil, je ne sais pas comment on va pouvoir faire, parce qu'effectivement, on est un peu, en tant que peuple, on est vraiment pieds et poings liés. D'abord, on n'a même pas accès à de l'argent, ce qui est terrible. Comment est-ce qu'on peut même se relever? Et puis ensuite, cette classe politique qui nous dirige, dont on aimerait se défaire, est complètement cadenassée. Ils sont cadenassés, c'est-à-dire c'est une mafia corrompue entre la politique, le système bancaire et la justice. Ils ne vont pas s'auto-inculper. Donc on ne sait vraiment pas quoi faire, même si on devait penser à une insurrection comme chez vous en 1789. Ce serait une insurrection sanguinaire, mais le rapport à la mort a changé. Aujourd'hui, qui aimerait risquer sa vie, un père de famille, une mère de famille, un adolescent? Ce n'est plus pareil, donc vraiment je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait faire, bien que je suis convaincue que la solution devrait venir de l'intérieur, mais pour le moment, vraiment je ne vois pas comment, parce qu'on est vraiment très 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 fatigué et pieds et poings liés.
Ouais, des artistes aussi, et des écrivains, des artistes comme disait Sabil Goussoub, et des écrivains, Diane Masloum, de cette imagination qui va être nécessaire. Un mot pour terminer, Sabil Goussoub.
Je dirais que malheureusement au Liban, il y a des gens qui sont prêts à mourir encore pour leurs idées, et que justement ce nouveau mouvement n'est pas prêt à mourir pour ça, et c'est le défaut finalement de ce mouvement, et en même temps c'est la qualité, parce que c'est plutôt une révolution de la vie face à celle de la mort qui est malheureusement aujourd'hui majoritaire au Liban.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci Sabil Goussoub. Beyrouth, entre parenthèses, votre roman paraît aux éditions de l'Antilope. Vous avez hésité à le publier, vous avez bien fait. Merci beaucoup d'avoir été autour de cette grande table. Et Diane Masloum, Une piscine dans le désert, c'est chez Jean-Claude Lattès. Merci à tous les deux.
Merci.
Dernière grande table de cette semaine, la grande table magazine de la culture et des idées de France Culture, à retrouver sur le fil de vos podcasts et tous les jours du lundi au jeudi en cette rentrée 2020 en direct à l'antenne. Demain, ce sera Lucille Comeau pour La Critique, nouveau rendez-vous que nous vous proposons autour de la culture avec des critiques, donc pour discuter de toute l'actualité culturelle. Je vous dis quant à moi rendez-vous samedi à 17h pour un premier numéro de En français dans le texte La Grande Table, une émission programmée avec soin par Henri Leblanc, Aurélien Delacroix et Jean Bulot, avec Laura Dutèche-Pérez, réalisé par Thomas Beau, avec Jean Guilain-Meige. Bel après-midi à tous sur France Culture.